Bonjour à chacun. J'ai encore ce matin le plaisir d'ouvrir la parole avec vous et on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. Avec aujourd'hui un texte qui nous parle de délivrance, de démons, de malades. Et la démonologie est sans doute un des sujets qui a fait couler le plus d'encre, avec des approches qui sont fondamentalement différentes et quelquefois excessives. Dans un des extrêmes, nous sommes des victimes continuelles de Satan et tout ce que nous vivons, que ce soit la maladie, notre péché, les épreuves diverses, sont le résultat finalement des attaques de Satan contre nous. Et dans un autre extrême, c'est un peu le contraire en fait. Nous nous focalisons sur le péché et même lorsque nous voyons quelqu'un de malade, ben nous réagissons un peu comme les disciples. Hein. Qui a péché ? Lui ou ses parents ? En fait, nous nions toute influence d'un monde spirituel et ne laissons finalement aucune place à l'action de démons dans la vie d'une personne. Ce matin, j'aimerais qu'on lise ce texte attentivement ensemble et j'essaierai de faire quelques observations sur ce texte et regarder comment ce texte résonne avec l'ensemble de ce que dit la Bible sur ce sujet. Je vous propose qu'on puisse lire dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Si vous avez la même version que moi, nous sommes page 664. Et je commence à lire à partir du verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mit à sa recherche et ils arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Je voudrais faire sur ce texte les observations que nous devrions finalement faire sur tout texte à chaque fois que nous lisons notre Bible. Comment nous assurer que ce que nous comprenons est juste ? La première observation que nous devons faire, c'est de dire, mais finalement, en face de quel type de texte est-ce que je suis ? Dans la Bible, il y a différents types de textes. On va trouver des récits historiques, on va trouver des paraboles, des prophéties, des poésies, des textes doctrinaux. En face de quel type de texte sommes-nous aujourd'hui ? Et peut-être que, pour comparer, je voudrais prendre un autre texte. Et je vais vous lire Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je note ici quelque chose, c'est que Jésus ordonne à ses disciples de faire quelque chose. Il leur dit « Allez, baptisez, enseignez. » Et tout ce dont le texte dit, c'est des choses que les disciples doivent faire. Alors bien sûr, il me reste une question en fait. Est-ce que les disciples à qui parle Jésus, ce sont les 11 qui restent après le suicide de Judas? Ou est-ce que je dois aussi, en tant que disciple, me sentir concerné? Et là, j'ai un indice dans le texte. Parce que Jésus dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Oui, lui, oui, mais pas les 11. Et en fait, on voit que son ordre se projette bien plus loin que les 11 à qui il est en train de parler à ce moment-là. Et puis, si on regarde le reste de la parole de Dieu, on voit que l'ordre qui est donné par Jésus est confirmé par les apôtres qui nous disent de faire la même chose, qui nous disent que nous devons proclamer l'évangile, enseigner, baptiser, dans des textes qui sont des textes doctrinaux. Maintenant, regardez notre texte. Ce n'est pas un texte qui nous dit ce que nous devons faire, c'est un texte qui nous dit ce que Jésus a fait. Si vous prenez ce texte comme un enseignement prescriptif, vous devez le faire aussi avec la multiplication des pains, vous devez enseigner à marcher sur l'eau, vous devez enseigner à parler au vent, et qui vous obéissent aussi. Et naturellement, on a un réflexe qui nous dit « Ah, mais ce n'est pas tout à fait ce que Jésus nous demande. » Et donc la première observation que l'on doit faire quand on lit ce type de texte, c'est de dire « Mais en face de quel type de texte est-ce que je suis ? Est-ce que c'est un texte qui me dit ce que Jésus a fait ? Ou est-ce que c'est un texte qui me dit ce que je dois faire ?» D'accord ? Nous sommes devant un texte qui, ici, nous dit ce que Jésus a fait. Deuxième observation. Qui écrit ? Alors, c'est Luc, et Luc est un médecin. Et à l'époque, effectivement, il n'y avait sans doute pas toutes les techniques modernes, mais il a vu des malades. Il a rencontré des malades. Il a guéri des malades. Et on est dans son sujet, en fait. On est d'accord que Luc, quand il parle de ça, il regarde ça avec un regard de médecin. Il sait de quoi il parle. Et puis, il y a une autre chose, c'est que les commentateurs sont assez unanimes pour dire que Luc est quelqu'un d'extrêmement minutieux, extrêmement précis, et que quand il choisit un mot, en fait, c'est pas juste comme ça. Il choisit et il dit exactement ce qu'il veut dire. Il dit lui-même qu'il s'est soigneusement informé des faits afin de pouvoir les exposer d'une manière suivie, afin que Théophile, qui était son premier lecteur, puisse reconnaître la certitude des enseignements qu'il a reçus. Maintenant, regardez au verset 35. Il menace le démon et le démon sort de l'homme. Au verset 38, il voit la belle-mère de Simon. Luc nous dit qu'elle a une forte fièvre. Donc, il est médecin, il sait ce que c'est qu'une fièvre. Il sait ce que c'est qu'une petite fièvre, une grosse fièvre. Et Jésus menace la fièvre et elle part. Au verset 40, nous avons divers malades qui sont là et Jésus les guérit en imposant les mains. Et Luc ajoute que des démons aussi partent. Le soir arrive, Jésus part, les personnes partent à sa recherche et ils ne veulent pas qu'il parte. Ils disent « Reste avec nous encore ». Mais Jésus leur dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce que j'ai fait ici, il faut que je le fasse ailleurs. » Et il leur dit ce qu'il a fait. « J'ai prêché la bonne nouvelle de l'Évangile. » Troisième observation. Où est-ce que nous sommes ? Où est-ce que nous nous situons finalement dans le grand récit de l'histoire du salut ? En fait, on a peut-être des fois une tendance à prendre les livres, un par un, comme ça, et puis dire, voilà, Job me raconte une histoire d'un homme qui a souffert, et puis je prends l'histoire des juges, et voilà, ça me raconte différentes périodes, etc. Mais en fait, ces livres ne sont pas une compilation un peu hétéroclite que l'on aurait ramassée et puis mis ensemble. En fait, ils nous racontent tous ensemble la grande histoire du salut. Avec, je ne sais plus si je le disais hier ou avant-hier, mais grosso modo, deux pages qui nous disent que Dieu a créé le ciel et la terre, deux pages qui nous parlent de la chute, 1000 pages qui nous disent que Jésus vient, qu'il annonce son salut, il accomplit son salut, et puis il explique son salut, et puis 2 pages à la fin qui nous disent ce qui se passera un jour. Où est-ce qu'on est dans cette grande histoire du salut ? Ben on est vraiment au milieu, on est vraiment dans la partie centrale, on est au point culminant de cette histoire. Tout l'Ancien Testament a préparé l'arrivée de Jésus, a annoncé qu'un salut allait arriver. Et ça y est, il est là. On est dans un moment très particulier de l'histoire. Et vous savez pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, je suis à peu près ici dans ma Bible. Toute la première partie de la Bible ne parle pas de démons. Ou très peu. Il y a 1 ou 2 allusions. Et elle ne parle en tout cas jamais de chasser des démons. Toute cette partie-là, qui est avant l'arrivée de Jésus. Et puis, il y a une deuxième partie où Jésus arrive et il dit que le royaume de Dieu vient avec lui. Et là, on se met à voir qu'il y a pas mal d'histoires qui nous parlent de démons. Et ça continue, et ça continue, et ça continue, jusqu'au livre des Actes. Et là, au livre des Actes, on en a déjà moins. En fait, on trouve un cas dans Actes 5 à Jérusalem, et c'est le tout début de l'Église. On est juste après le mensonge d'Anania et de Saphira, et les malades guérissent au passage de l'ombre de Pierre. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Il y a le soleil, Pierre est là, et vous passez à côté dans son ombre et vous guérissez. De nombreuses personnes tourmentées par des esprits impurs sont guéries. Acte 8, la persécution fait rage à Jérusalem. Philippe descend en Samarie. Et là, il prêche nouvellement l'évangile de Christ. Et encore une fois, des esprits impurs sortent de beaucoup de démoniaques. En criant d'une voix forte, beaucoup de paralytiques, de boiteux furent guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Acte 16, Paul va plus loin, il va à Philippe et une femme le suit en proclamant « Ils sont les serviteurs du Dieu très haut, ils annoncent le chemin du salut. » Puis elle fait ça pendant... Et à un moment, il se tourne, il dit « Tu sors. » Et un démon la quitte. Acte 19, Paul à Éphèse. Éphèse, c'est la ville typique de l'occultisme. Merci Mathieu. De l'occultisme. Et on a cette ambiance occulte dans toute cette ville. Et effectivement, Paul à Éphèse, il nous est dit que Dieu faisait des miracles par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les étoffes qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Ne faites pas ça avec moi, vous allez être malade. Si vous touchez mes mouchoirs, ça va mal se passer. On est vraiment dans une période assez extraordinaire. Et vous savez ce qui se passe après ? Après, on a les épîtres. Et vous savez qu'est-ce qu'on dit sur... plus rien. Les épîtres ne nous en parlent plus. Elles ne nous disent pas que nous avons des choses particulières à faire. Et en fait, finalement, la démonologie dans la Bible, ça tient à peu près... Je vais y arriver. À peu près ça. Sachant que dans ça, on raconte 3 fois la même histoire, Matthieu, Marc et Luc, que Jean n'en parle pas et qu'on va en retrouver dans les Actes. Souvent, ce qu'on sait sur la démonologie... Et quelque chose qui est exploité à partir de peu de choses. Et nous devons être prudents. Quand nous regardons ces cas, nous constatons qu'ils interviennent dans un contexte d'expansion du royaume. Avec Jésus, le royaume est arrivé. Avec les apôtres, il franchit les frontières. Il s'étend en Judée, en Samarie. Il va jusqu'au reste du monde. Et dans chacune de ces étapes, nous trouvons une manifestation particulière du don de l'esprit et une opposition particulière du monde des ténèbres. Il faut encore une fois noter que tous ces textes dont je viens vous parler sont tous des textes narratifs, qu'aucun d'eux n'enseigne qu'il faut chasser des démons. Ils disent ce que les apôtres Pierre, Philippe, Paul ont fait. Si je regarde le reste de la Bible, les épîtres, l'Apocalypse ne parle pas du fait de chasser les démons. Un texte troublant, Marc 16. Si vous voulez lire avec moi dans Marc 16, je vais commencer au verset 14. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il l'avait vu ressusciter. Puis il leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Alors, je ne veux pas rentrer en détail sur ce texte, mais je voudrais encore une fois faire quelques remarques sur le texte lui-même. Le texte lui-même pose des questions, hein, parce que si aujourd'hui, dans la plupart des manuscrits que nous avons, en fait, ce texte est présent, si on remonte dans l'histoire et qu'on arrive par exemple au temps d'Eusèbe, dans les années 260-300, en fait, lui dit qu'à l'époque, il était absent de la plupart des manuscrits. Il lui dit, mais on lui pose une question sur ce texte, il dit, oh, ce texte, le problème, c'est qu'il y a peu de manuscrits qui en parlent. Mais après, dans le temps, il est devenu présent dans la plupart des manuscrits. Donc c'est la première chose, c'est que ce texte est présent dans vos Bibles. En général, il est entre crochets, d'accord ? Donc on ne peut pas fonder une doctrine, d'accord, sur un texte dont on ne peut pas être absolument sûr qu'il était présent dans les manuscrits originaux. Ok, maintenant prenons le texte et regardons ce qu'il dit. Souvenez-vous, dans Matthieu 28, nous avons clairement dit qu'il y avait des indices dans le texte que Jésus ne s'adressait pas que aux onze, mais à plus que les onze. Hein, il disait vraiment que cet ordre était jusqu'à ce qu'il revienne. Ici, c'est plutôt le contraire, en fait. Le texte laisse comprendre que ce n'est que aux onze dont il est en train de parler. Regardez, en fait, il leur dit, au verset 14, il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Et ensuite, il dit à ceux qui parmi vous auront cru, voici les signes qui vous accompagneront. À ceux à qui il reproche l'incrédulité, il dit, voici les signes que vous verrez quand vous aurez cru. Donc le texte nous montre plutôt qu'il est en train de parler aux gens qui sont devant lui et que ça ne s'adresse pas à nous aujourd'hui. L'autre chose, c'est que les signes semblent indissociables. Il ne dit pas « voici un des signes parmi lesquels on pourrait éventuellement reconnaître que, etc. » En fait, je ne peux pas prendre un signe et rejeter les autres. Si j'ai le pouvoir de chasser les démons, j'ai aussi le pouvoir de parler de nouvelles langues, de résister aux mortures de serpents, de boire des breuvages mortels, d'imposer les mains avec une guérison à 100%. Et là non plus, on n'a aucun enseignement qui nous confirme ailleurs que nous devions faire cela. Donc le texte lui-même, même si nous le prenons, en fait, n'enseigne pas à nous-mêmes de chasser les démons. Quatrième observation. Encore une fois, où sommes-nous ? Mais où sommes-nous dans l'évangile de Luc ? En fait, on a vu avec Jean-Pierre il y a 15 jours que ce chapitre 4 débute avec l'épisode de la tentation où Jésus répond à Satan. Et quel était l'enjeu de cela ? En fait, Satan tente Jésus pour qu'il pêche, mais Jésus ne pêche pas. Jésus place sa confiance dans la parole de Dieu, il déjoue les mensonges du diable et il ne pêche pas. Et en fait, Jean-Pierre nous a rappelé que Jésus réussit là où toute l'humanité a échoué au travers d'Adam et Ève. Et en fait, que Jésus réussit là où tout le peuple de Dieu a échoué au travers d'Israël, à travers toutes les allusions qui sont faites dans ce texte. Et Paul conclut plus loin en disant de manière assez catégorique, il n'y a pas de juste, pas même un seul, vous avez tous échoué, tous sauf Jésus. Combat spirituel qui est présenté dans le début du chapitre 4. Mais ici, nous trouvons une deuxième sorte de combat spirituel. Nous ne sommes pas dans un combat de face à face avec Satan, dans un combat personnel, mais dans un autre aspect du monde des ténèbres. Regardez, ils sont appelés les esprits mauvais, impurs, démons. Ils sont les anges déchus à cause de leur péché. On trouve ça en 2 Pierre 2, verset 4, juste 6. Quelle est leur activité ? Dans la Bible, nous ne voyons jamais les démons tenter ou séduire. Ce n'est pas l'activité que nous trouvons dans la Bible à propos des démons. Nous les voyons, ils font souffrir, ils perturbent, ils oppriment, ils contrôlent, mais ils ne tentent pas. Ainsi, Luc, tout au début du ministère de Jésus, nous montre un deuxième type de combat spirituel. Un combat où nous sommes face à des victimes. Jésus vient de la synagogue, il rencontre l'homme qui est une victime de ce monde déchu. Il sort de la synagogue, il va chez Simon et il y trouve une nouvelle victime du monde déchu. Maintenant, je voudrais que vous vous rappeliez de ce que nous avons dit la semaine dernière, de ce que nous avons entendu la semaine dernière. Vous vous souvenez, c'était ce « Aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue est accomplie ». Et quelle était cette parole ? Vous vous souvenez de cela ? « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Jésus vient juste d'annoncer qu'il va délivrer les victimes de ce monde déchu. Et il le fait. Il fait ce qu'il vient de dire, qu'il était là pour faire. Il dit, j'ai été choisi pour cela. Mon rôle est de faire cela. Et il fait cela. Cinquième observation. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce texte ? Regardez avec moi au verset 32. Les personnes étaient frappées par l'enseignement de Jésus parce qu'il parlait avec autorité. Jésus parlait fort, il imposait son point de vue et on avait peur de lui poser des questions. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Non, ça c'est moi, mais c'est juste parce que sur le coin de ma feuille, je marque plus fort, parce que sinon les gens me disent après qu'ils ne m'entendent pas. Il enseignait avec autorité par rapport aux autres enseignants. Vous savez, l'enseignement de ce temps, c'était des rabbis, qui disaient des rabbins qui disaient un passage, et puis qui vous disait, rabbin après rabbin, ce que chacun pouvait penser ou ne pas penser de ce passage. Et rabbin Élie, il dit que ce passage évoque plutôt ceci, mais rabbin Joseph, lui, pense que c'est plutôt cela, et puis rabbin, etc., lui a une idée un peu personnelle de ça, et il pense que ça veut dire autre chose. Jésus enseignait avec autorité. Il y avait pas d'espace, il n'y avait pas un cheveu entre ce que la parole disait et ce que Jésus disait. Il enseignait avec autorité. Ce qu'il disait était incontestable. Jésus est la parole. Quand il cite le texte, il se cite lui-même. Il est celui qui parle. Et vous savez, dans le texte d'avant, les gens réagissent comme ça. Ils disent, mais qui c'est qui parle ? C'est pas le fils de Joseph ? Et ils sont étonnés de voir la proximité qu'il y a entre ce qui est dit et la personne qui le dit. Et ça les laisse sans voix. Au verset 36, nous avons un nouveau rappel de cette autorité. Il parle au démon, et le démon lui obéit, et ils disent, mais quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et un peu plus loin, ces démons, ils disent oh, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu !» Et regardez ce qu'il fait. Il les repent, il leur dit « Eh oh, on t'a rien demandé. Tais-toi, je veux pas t'entendre. » Pourquoi je veux pas t'entendre ? Parce que l'autorité de Jésus ne peut pas venir d'un démon. Les démons sont des menteurs, on n'a pas à croire ce qu'ils disent. Jésus ne veut pas que son autorité soit affirmée par un démon. Il lui dit « Tais-toi, tu n'as rien à dire. » Mon autorité, je la détiens de ma parole. Jésus est au début de son ministère. On a juste rappelé dans le point précédent que suite à la prophétie d'Ésaïe, Jésus a affirmé « Je suis le Messie, je veux vous délivrer. » Et aujourd'hui, il dit « Je peux le faire. Je suis celui qui peut vous délivrer. Je peux vous délivrer de l'oppresseur. Je peux vous délivrer de celui qui vous retient prisonnier. Je peux vous guérir parce que j'ai l'autorité sur les puissances des ténèbres. J'ai l'autorité sur la maladie. » Et la semaine prochaine, il affirmera son autorité sur la création elle-même. Jésus est celui qui a l'autorité. Qu'est-ce qui nous fait croire que nous pourrions être revêtus de l'autorité de Christ parce que nous disons au nom de Jésus à la fin de nos prières? J'ai travaillé pendant quelques années comme chef de projet et quand je signais, par exemple, des bons de commande, ça m'arrivait assez régulièrement, j'avais un montant sur lequel j'avais autorité de le faire. Jusqu'à ce montant-là, je pouvais signer les bons de commande, et puis les bons de commande étaient valables parce que j'avais autorité de signer ces commandes. Mais très souvent, j'ai signé des dizaines et peut-être des centaines de bons de commande pour lesquels je n'avais pas autorité de le faire, qui étaient largement supérieurs à ce que je pouvais faire. J'ajoutais deux lettres à côté de ma signature. P.O. Par ordre. En fait, en signant cela, je disais, mon boss, il est d'accord pour qu'on passe la commande. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'étais pas en train de prendre l'autorité de mon directeur pour dire je fais ce que je veux. J'étais en train de dire je sais ce que mon directeur veut et je vous le dis. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas s'accaparer l'autorité de Jésus, c'est être respectueux et soumis de son autorité. Après ces quelques observations, que devons-nous faire? La première chose, il me semble que nous devons être prudents. Il y a quelques années, un couple de jeunes chrétiens qui fréquentaient l'église depuis quelques années est venu me voir. L'épouse avait depuis quelques temps des visions, mais celles-ci étaient devenues de plus en plus dures et de plus en plus violentes. Elle ne la laissait pas tranquille. Il y avait des temps de répit, puis des temps de crise. Mais s'ils sont venus me voir, c'est parce que la situation s'était aggravée au point qu'une nuit, il s'est réveillé quand il a entendu de bruit et sa femme avait deux couteaux dans les mains au-dessus de ses deux filles. Et ils étaient terrorisés par ce qui était en train de leur arriver. Et tout de suite, y a un démon, il y a quelque chose. Et j'avoue que c'était compliqué. On était perplexes devant ce qui était en train de se passer. On a accompagné de manière pastorale, mais aussi surtout de manière psychiatrique, cette femme. Elle a été diagnostiquée, un traitement a été mis en place, et peu à peu, elle a retrouvé une vie normale. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer un autre couple en crise. Et le mot le plus présent pour expliquer les difficultés au sein de ce couple, c'était Satan. Mais avec le temps, ce qui s'est révélé, c'est que Satan n'était pas le problème du couple, mais que c'était eux le problème. Leur péché, leur orgueil, leur propre vision de la vie, leur désir de vivre pour eux-mêmes ici et maintenant, leur égoïsme, le fait qu'ils n'avaient jamais vraiment renoncé à leur vie pour suivre Jésus. En fait, Jésus, c'était quelque chose qu'ils avaient ajouté à leur vie, peut-être comme une solution à leurs problèmes. Et ils étaient déçus de cela. Satan est devenu une excuse facile pour légitimer le fait qu'on ne peut pas résister à Satan. C'est compliqué. Nous devrions être prudents lorsque nous parlons de démonisation. Il y a peu de cas dans la Bible. Il y en a, mais il y a peu de cas dans la Bible. Il est des fois difficile de faire la part des choses et on doit être prudent. Deuxième chose, nous devons agir avec les instructions que nous donne la parole. Parce que si effectivement nous devons être prudents, pour autant, Éphésiens 6 nous dit clairement que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dénominations, contre les esprits du mal. Donc ne dites surtout pas, Jean-Jacques nous a dit qu'il n'y avait pas de démons. Non, non, la Bible affirme que nous sommes dans une lutte spirituelle. Ok, mais regardez comment est-ce que Paul, qui s'adresse aux chrétiens de la ville, qui est peut-être la plus occulte du moment, leur dit, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi un bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Résistez, tenez ferme, luttez avec la parole de Dieu, l'évangile. L'évangile de votre salut, dit-il au chapitre 1, avec la cuirasse de la justice, menez une vie juste, résolue, devant Dieu. Chaussez à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de la paix, une paix qui est objective parce qu'elle a été acquise par Christ sur la croix, qui a vécu proclamant cette paix-là. Nous sommes en paix parce que Jésus a vaincu l'ennemi d'une manière définitive sur la croix. Prenez le bouclier de la foi, placez votre confiance en Dieu. Quand vous êtes agressé, ne vous reposez pas sur vos propres forces. Prenez le casque du salut, un salut acquis d'une manière définitive, irrévocable, qui nous assure que nous avons la vie pour l'éternité. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu proclamée, l'œuvre de Christ prêchée, la repentance et le salut offert. Autrement dit, lutter contre les démons, c'est se préoccuper des victimes et de leur salut. C'est par la repentance, c'est par la présence de l'Esprit de Dieu qui vient nous habiter que les démons sont chassés. Et vous savez, Jésus avertit lui-même de cela. Il dit « Faites attention, hein !» Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va avec lui prendre sept autres esprits les plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Tu lui dis « Mais si vous videz les lieux, hein, il faut les remplir ». Parce que si vous les laissez vides, ben vous avez juste fait de la place pour d'autres. C'est par la repentance, par la conversion, parce que Jésus vient habiter nos vies, nos cœurs, que les démons sont chassés. Oui, je connais des cas, me direz-vous, et vous avez raison. Et je voudrais juste conclure là-dessus. Si ce que je vis est différent de ce que la Bible affirme, je dois réexaminer ce que je vis à la lumière de la Bible. Quelquefois, nous faisons un peu le contraire. On vit des choses et on se dit, tiens, comment est-ce que la Bible pourrait bien me conforter dans ce que je vis ? Nous devons faire le contraire. Nous devons nous dire comment, si je vis quelque chose et que je ne retrouve pas ça dans le texte, c'est ce que je vis qui a un problème. C'est ce que je comprends qui a un problème. Il me semble qu'on peut regrouper ces expériences en trois groupes. La supercherie, le placebo et la grâce. La supercherie, Jésus la dénonce lui-même de son temps. Il dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup diront « Nous avons chassé des démons en ton nom. » Et je leur répondrai « Moi, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y a de la supercherie, et c'est triste. Il y a du placebo aussi. C'est le cas où les personnes sont elles-mêmes persuadées d'être démonisées, finalement. Et le plus simple, ben finalement, c'est de pratiquer un acte d'exorcisme qui va les rassurer, les convaincre qu'ils vont mieux, et parce qu'elles sont convaincues, elles vont vivre différemment et plus facilement ce qu'elles vivent. Il y a des cas aussi. Et puis, il y a la grâce. Il y a vraiment la grâce. Et la grâce, c'est le fait que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Il passe par-dessus notre ignorance, il passe par-dessus notre désobéissance, il agit sans aucun mérite de notre part. Dieu ne nous demande pas de faire ça, mais nous le faisons et il agit. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Parce qu'il répond à nos manques de foi. Parce qu'il ne nous traite pas selon notre mérite sur ce sujet-là, comme sur bien d'autres. Je suis conscient de ne pas tout dire sur ce sujet-là, mais je voudrais vous proposer trois choses. La première chose, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, soyez des chrétiens de béret. Prenez votre Bible, prenez une concordance, et il y en a plein de gratuites en ligne. Prenez tous les textes qui parlent de démons, d'esprits impurs ou mauvais, et faites la démarche que nous venons de faire ensemble sur chaque texte. Et vous verrez, c'est pas long, il n'y en a pas tant que ça. Quel est le contexte de ce texte? À qui est-ce qu'il parle? Est-ce que c'est un texte qui m'enseigne ce que je dois faire? Est-ce que c'est un texte qui me dit ce que Jésus a fait ou ce que les apôtres ont fait, etc. Prenez ce temps-là. En une demi-journée, vous avez tranquillement fait le tour du sujet. Et vous comprendrez par vous-même ce que la Bible vous dit, et ce sera beaucoup mieux parce que la parole de Dieu a une autorité que moi, je n'ai pas. La seconde, je vous propose de lire un livre, « Combattre le bon combat » de David Polisson. Alors, il est seulement disponible en impression à la demande, mais si vous pouvez le commander à la Maison de la Bible, c'est une quinzaine d'euros, c'est vraiment un bouquin excellent sur ce sujet-là. Et la troisième, c'est utiliser la boîte aux questions qui est au fond de la salle. Je suis conscient que ce que je dis peut poser peut-être autant de questions que de réponses. Profitez-en. Posez des questions dans la boîte aux questions et les anciens se feront un plaisir de répondre à vos questions, soit lors d'un culte ou via l'info hebdo. Je voudrais encore prier avec vous. Notre Dieu, notre Père, nous savons que tu as envoyé ton Fils pour venir dans ce monde, pour nous délivrer du péché, de ses conséquences, pour nous délivrer, nous libérer de l'oppression du monde des ténèbres. Et nous savons que de la même manière que tu as parfaitement guéri les personnes que tu avais sur ton chemin, de la maladie, de l'action des démons dans leur vie, tu le fais pour nous également de manière parfaite. En venant premièrement remplir nos vies par ton esprit, en régénérant nos cœurs, en les libérant de la dictature du mal, mais aussi, in fine, en nous guérissant de toute maladie, toute conséquence de ce monde déchu, en nous ressuscitant et nous donnant des cœurs nouveaux. Et nous vivons dans ce temps un peu intermédiaire, où nous vivons pleinement la délivrance du mal, mais où nous vivons encore ces conséquences. Et nous te prions que, dans ce temps-là, nous apprenions à te faire pleinement confiance, à toi, à ta parole, pour que nous puissions la proclamer d'une manière juste et proclamer la délivrance et qu'elle soit effective aussi pour ceux qui nous entourent. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.